France Culture.
Bonjour à tous, il est 9h. Des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine jeudi à Istanbul. C'est la proposition faite dans la nuit par Vladimir Poutine qui repousse ainsi le cessez-le-feu dès demain exigé hier par les alliés de Kiev. Décryptage avec notre correspondant à Moscou. Plus de 1000 cas de rougeole enregistrés depuis le début de l'année aux États-Unis et 3 morts. Le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr. est accusé de largement contribuer à cette crise sanitaire en alimentant les craintes à l'égard du vaccin. Et puis, une campagne de financement participatif lancée par la prestigieuse École du Louvre à Paris, un appel aux dons inédit pour pérenniser son système d'aide aux étudiants. Au lendemain de la rencontre de Kiev entre les Européens et le président ukrainien, Vladimir Poutine propose de reprendre des négociations directes avec l'Ukraine pour trouver une issue à la guerre. Le président russe s'est exprimé dans la nuit en imposant son propre tempo puisqu'il a fixé la date de ces discussions au 15 mai à Istanbul. Bonjour Jean-Didier Revoin.
Bonjour.
Alors vous êtes le correspondant de France Culture à Moscou. Le président russe n'a donc pas tenu de l'ultimatum lancé hier par l'Ukraine et ses alliés qui exigeaient avant tout un cessez-le-feu. Feu de 30 jours à partir de demain.
Alors en effet, Vladimir Poutine n'a pas évoqué la possibilité d'une trêve à partir de lundi. Il a justifié son point de vue en expliquant que Kiev n'avait jusqu'à présent respecté aucune des trêves proposées par Moscou. Qu'il s'agisse de celles qui visaient les infrastructures énergétiques, de la trêve de Pâques ou encore de celle de 3 jours qui aurait dû avoir lieu lors des célébrations de la victoire. Le président russe a répertorié plus de 5000 violations de ces trêves de la part des Ukrainiens et dans ces conditions, il n'est pas prêt à faire taire les canons. Mais Vladimir Poutine a répété hier soir qu'il était déterminé à éliminer les causes profondes de ce conflit afin de parvenir à une paix durable plutôt qu'à une succession de cessez-le-feu. Et pour lui, des négociations directes avec les autorités ukrainiennes sont le meilleur moyen d'y parvenir. Reste que, compte tenu de l'avantage de ses troupes sur le champ de bataille, Moscou redoute de voir Kiev profiter d'un arrêt des combats pour réorganiser ses forces militaires et leur permettre de se reposer. C'est pour cette raison que les autorités russes avaient exigé l'interruption des livraisons d'armes occidentales comme préalable à une interruption des combats de longue durée.
Alors, quelles seraient les modalités de ces négociations voulues par Vladimir Poutine ?
Alors sur le papier, c'est bien simple. Le président russe veut que les négociations reprennent là où elles ont échoué en 2022, à Istanbul, et ce, dès jeudi prochain. Il a une fois encore répété qu'il était prêt à négocier sans condition préalable, soulignant que sa proposition était sur la table et que la réponse dépendait désormais du pouvoir ukrainien et de ses curateurs. Reste que les positions des partis restent très éloignées. On a d'un côté Kiev et ses alliés qui réclament depuis plusieurs mois maintenant un arrêt des combats, et de l'autre Moscou qui veut négocier une solution à long terme sans pour autant interrompre son effort de guerre jusqu'à ce qu'un accord puisse intervenir. Quant à la menace de nouvelles sanctions brandies par Kiev et ses alliés dans le cas d'une poursuite des combats, elle n'impressionne pas le Kremlin dont le porte-parole a fait savoir que la Russie s'était déjà habituée à de telles mesures de pression et qu'elle savait comment en minimiser les conséquences.
Jean-Didier Revoin à Moscou. Les négociations en direct proposées par Vladimir Poutine entre la Russie et l'Ukraine en réponse à ce cessez-le-feu inconditionnel exigé par Kiev et ses alliés est un premier mouvement, mais il n'est pas suffisant, affirme ce matin Emmanuel Macron. La proposition du président russe montre qu'il cherche une voie, mais il y a toujours chez lui la volonté de gagner du temps, a-t-il déclaré à sa descente de train en Pologne à son retour de Kiev. Un cessez-le-feu, eux, l'ont accepté hier après 4 jours d'attaques meurtrières, de drones, de tirs d'artillerie et de frappes de missiles. L'Inde et le Pakistan ont annoncé hier la fin des hostilités, mais à peine quelques heures plus tard, les deux pays se sont mutuellement accusés de violer cette trêve. C'est pour certains médecins américains une situation hors de contrôle. Depuis janvier, plus de 1000 cas de rougeole ont été recensés aux États-Unis et 3 personnes en sont mortes, du jamais vu depuis l'éradication de la maladie dans le pays au début des années 2000. Le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. est accusé d'aggraver cette crise sanitaire en alimentant la méfiance envers le vaccin, Hélène Chevalier.
C'est une interview qui a fait bondir la communauté médicale. Sur Fox News, Robert Kennedy Jr. défend les familles qui refusent la vaccination.
Parce que le vaccin contient beaucoup de débris de fœtus avortés.
et de particules d'ADN, ils ne veulent pas le prendre.
Un énième dérapage du ministre de la Santé pour Paul Offit, pédiatre infectiologue à l'hôpital pour enfants de Philadelphie.
Il a déclaré à la télévision nationale que le vaccin contre la rougeole tuait des gens chaque année. Qu'il provoquait la cécité et la surdité. Qu'il provoquait les mêmes symptômes que la rougeole. Il est donc la pire personne pour diriger le ministère de la Santé pendant cette épidémie.
Selon le médecin, l'épidémie est sous-estimée. Il y aurait 3 fois plus de cas que ceux recensés. Il s'inquiète également des conséquences des coupes budgétaires massives.
Les équipes de vaccination qui allaient dans des écoles où le taux de vaccination est faible ont vu leurs interventions annulées faute de financement.
Comme cet infectiologue, beaucoup de spécialistes de santé publique craignent la résurgence d'autres maladies. La coqueluche, par exemple, a vu son nombre de cas multiplié par 6 en un an.
Hélène Chevalier à Washington. France Culture, 9h et bientôt 6 minutes. C'est aujourd'hui que Léon XIV va prononcer sa première prière publique à midi. Il apparaîtra au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Un rendez-vous hebdomadaire qui est souvent l'occasion pour le pape de s'exprimer sur les grands sujets dominant l'actualité internationale. En attendant, ses amis de l'ordre de Saint-Augustin à Rome, dont fait partie Léon XIV, nous racontent leur pape. Le reportage de Cécile Bideau.
Les prêtres de l'ordre de Saint-Augustin ont encore du mal à réaliser que celui qu'ils ont fréquenté durant tant d'années dirige désormais l'Église catholique.
Il faut que je me souvienne que je dois l'appeler Pape Léon. Moi, je parle toujours de Bob.
Le père Anthony Benedetto Pizzo le connaît depuis 50 ans. Ils ont fait leurs études de théologie ensemble.
Il a toujours été un leader. C'est un homme intègre qui écoute. Je pense qu'il sera toujours le même homme. Les deux pieds dans le sol.
Dans les couloirs de l'ordre de Saint-Augustin, un portrait de Robert Francis Prévost. Il a été le prieur général ici pendant 12 ans. Mais même après avoir rejoint le gouvernement du Vatican, il a continué à venir tous les jours pour la messe. Le père Luis Marin nous ouvre les portes de la chapelle dédiée à Saint-Augustin.
Ici, c'est sa place. Il se mettait là, il priait avec nous et ensuite partait travailler.
Un grand escalier de pierre nous emmène ensuite tout en haut du domaine, un lieu à l'abri des regards où se trouve un court de tennis.
Encore dimanche dernier, il est venu jouer ici. C'est un bon joueur de tennis. Maintenant, le pape joue le match de Dieu au sein de l'église.
Hier, le pape Léon XIV a effectué une sortie surprise dans une église de la périphérie de Rome dont les Augustiniens ont la charge.
Cécile Bideau, notre envoyée spéciale à Rome. Cette initiative inédite en France à présent, une campagne de financement participatif organisée par une grande école pour soutenir ses étudiants précaires. La prestigieuse école du Louvre à Paris prend le sujet particulièrement au sérieux depuis la crise du Covid. Elle avait alors décidé de créer un fonds de dotation, dispositif qui permet à ses élèves qui font face à des difficultés pour payer leurs factures ou leur loyer de bénéficier de bourses d'urgence. Mais le financement de ce fonds est trop ponctuel pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. L'école du Louvre vient donc de lancer un appel aux dons afin de pérenniser son système d'aide aux étudiants. Adrien Toffolé.
Pour l'instant, la vie d'étudiante d'Eya, 22 ans, se résume ainsi.
J'ai galéré comme un étudiant lambda, boursier, qui arrive sur Paris, qui vient de sa petite campagne.
Avant d'intégrer cette année le Master 1 à l'école du Louvre, elle a obtenu avec brio une licence à la Sorbonne, malgré un quotidien particulièrement difficile.
Le repas à 1 euro qui me fait mon gros repas de la journée, je l'ai vécu.
Elle a pourtant une bourse Crous de 300 euros, une aide au logement, mais chaque euro doit être compté. Et à son arrivée à l'école du Louvre, elle a dû se résoudre à prendre un travail.
C'était un peu l'enfer. J'étais dans les musées. Je faisais de la surveillance samedi, dimanche, sans vacances ni rien, et ça a l'air simple comme ça, mais quand vous avez à la fois un tronc commun qui est très dense, beaucoup d'examens, un mémoire à assumer, et ainsi de suite, et découvrir l'école pour ma part, c'est éprouvant.
Un job étudiant qu'elle a pu abandonner depuis, grâce à une rare et précieuse bourse de mécénat, mais tous n'ont pas cette chance. Situation dont a bien conscience la directrice de l'école du Louvre, Claire Barbillon.
Les bourses du Crous, ça ne suffit évidemment pas pour se loger, se vêtir, se nourrir à Paris.
Problème majeur avec 70% d'élèves qui ne sont pas originaires de Paris et une précarité étudiante qui augmente tous les ans, d'où le lancement de cette campagne de financement participatif qui viendra abonder un fonds de dotation dédié à l'aide aux élèves.
On a de plus en plus de demandes de bourses d'urgence. L'idée, c'est de parvenir à une certaine pérennité de ces bourses. Parce que autant il est facile de sensibiliser un mécène au fait de donner une bourse autant il est difficile de les pérenniser. Le fonds de dotation permet de placer l'argent des donateurs et d'utiliser pour des bourses les revenus de l'argent placé.
Une mobilisation afin de garantir l'égalité des chances, car aujourd'hui l'école du Louvre estime qu'un tiers de ses 1800 élèves est en situation de précarité.
Le temps aujourd'hui instable et orageux avec parfois de la grêle sur la majorité du pays. Seules régions épargnées, le soleil sera présent du Grand Est au Hauts-de-France. Les températures maximales, 16 à 20 degrés à l'arrière du front orageux, 21 à 25 à l'avant.